Invité vom Dach.
An der Haut den Philipp Hillixmann hier nach Zanter dem letzte Jahr Vizerektor ob der Uni Lu und dort zuständig für die Lehrer und Studenten leben. Für drun war hier in einer ähnlichen Funktion ob der Uni zu Louvain. Bonjour, Monsieur Hillixmann.
Morgen, bonjour.
Monsieur Hillixmann, vous avez participé à la conférence Nexus, la grande conférence sur l'intelligence artificielle, conférence qui a attiré plusieurs milliers de visiteurs ces derniers jours ici au Kirchberg. Quel est le principal enseignement que vous en tirez pour l'Université du Luxembourg?
Alors oui, en effet, donc c'était un événement particulièrement couru par beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations. Et moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait que, quelle que soit l'organisation qui était présente, que ce soit des banques, des industries, aussi des administrations publiques, ce qui m'a véritablement frappé, c'est que toutes et tous s'emparent du sujet de l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais bon, de par ma fonction, je ne peux pas ne pas m'y intéresser. Et que, d'une certaine manière, tout convergeait vers on ne peut plus faire sans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre vie à part entière. Alors, l'intelligence artificielle, ça existe depuis des années, mais pour ne pas dire des décennies. Mm-hmm. Mais je dirais que c'est surtout depuis l'avènement de ChatGPT il y a 3 ans que le grand public se rend compte du pouvoir important que peut avoir l'intelligence artificielle.
Et le Premier ministre Luc Frieden, il a annoncé lundi déjà un partenariat stratégique avec Mistral AI. C'était une annonce assez grande. Et il a fait savoir que le gouvernement souhaiterait aussi miser plus sur la formation, sur des cursus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'université compte jouer un rôle dans ce domaine, un rôle plus grand, plus important?
Ah oui, je dirais que l'université joue déjà un rôle important dans ce domaine. Donc, nous avons en effet toute une série d'offres de formation. Nous avons pas mal de programmes de recherche, de professeurs qui travaillent sur différents aspects de l'intelligence artificielle. Et pas que, je dirais, dans le secteur des sciences et des technologies, aussi dans le secteur des sciences humaines. Donc, en histoire, par exemple, un gros projet justement sur l'intelligence artificielle et l'histoire digitale, l'histoire publique.
Oui, un de vos collègues, le professeur d'histoire Benoît Magérus, va lancer un projet de recherche justement sur les réseaux fiscaux mondiaux à l'aide d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous diriez que des projets comme celui-là et d'autres ne seraient pas pensables sans justement l'intelligence artificielle?
Ah, clairement. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance que peut avoir l'intelligence artificielle aussi par rapport à pouvoir aller analyser toute une série de données que l'être humain seul ne peut pas faire, même en équipe. Je dirais ça c'est la puissance de l'intelligence artificielle. Mais il faut bien évidemment aussi se rendre compte que l'intelligence artificielle, si elle n'est pas utilisée à bon escient, elle peut aussi comporter certains risques, bien évidemment. Mais le type de projet tel qu'il a été lancé par le professeur Benoît Magérus, c'est un projet pour moi qui va être exemplaire et exemplatif du type de projet que l'université va pouvoir lancer aussi en lien avec toute une série de partenaires, de stakeholders externes.
Mais quand on arrive à l'université en tant que jeune étudiant dans une matière quelconque, qu'on n'a pas tellement d'expérience avec une utilisation, je dirais, raisonnée de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a une introduction au sujet? Est-ce que tous les étudiants sont vraiment briefés comment il faut utiliser ces technologies?
Alors, votre question tombe à propos, puisque en ma qualité de vice-recteur, on travaille pour l'instant avec les équipes justement pour mettre en place des workshops qui vont en fait être rendus obligatoires pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants qui vont nous arriver ici à la rentrée en septembre 2025. Mon objectif à terme, c'est de pouvoir mettre en place différents cours qui seront rendus obligatoires, si vous voulez, une sorte de package, de welcome pack avec des cours. Pour ça, je suis actuellement en train de mener des discussions avec les différentes facultés. Et évidemment, un des cours ou une des formations qui est obligatoire, évidemment, ou qui sera obligatoire, serait justement de pouvoir utiliser l'IA à bon escient. Je pense que les étudiants, quand ils nous arrivent, les étudiantes, quand elles nous arrivent, ils connaissent tous l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de leur expliquer comment ils doivent utiliser différentes applications. Ils peuvent le faire et ils le font beaucoup mieux que moi à mon âge, parce que moi je ne suis pas digital native. Mais par contre, utiliser l'intelligence artificielle de manière raisonnée, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans le cadre d'un travail scientifique, il faut pouvoir demander à ses étudiants et étudiantes de justement bien référencer l'utilisation d'intelligence artificielle, de pouvoir aussi être critique par rapport à l'information qu'ils reçoivent lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle.
Mais comment s'y prendre ? Comment est-ce qu'on peut demander à ChatGPT, je sais pas quoi, et puis comment justement l'utiliser à bon escient ? Ou est-ce que vous dites d'emblée, ChatGPT, on peut oublier, on a d'autres outils
non,
qui sont plus...
Non, il y a ChatGPT, il y a d'autres outils, ouais. Donc, mais je dirais que globalement, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'information que va nous donner ChatGPT, je voyais encore un exemple, il y a deux jours, c'est qu'un professeur qui avait demandé à ses élèves de faire une rédaction en deux pages sur Victor Hugo, et sur les deux pages, il y avait cinq erreurs, dont le mois de naissance de Victor Hugo. Et donc là, c'est le rôle justement du professeur de montrer, grâce à ses connaissances disciplinaires, de montrer que, attention, oui, ChatGPT peut être intéressant en tant qu'outil, par exemple, de rédaction pour corriger certaines erreurs, comme d'ailleurs dans tout traitement de texte, lorsqu'on rédige un texte et qu'il y a des fautes, ben, ça nous corrige quelque part directement, même chose pour les mails. Donc ça, ce sont des outils, je dirais, plus orthographiques, grammaticaux, mais je dirais que ce qu'il faut surtout apprendre aux étudiantes et aux étudiants, c'est à utiliser l'information de manière critique et à ne pas, je veux dire, avaler tout ce que ChatGPT donne comme information comme étant de l'argent comptant.
Quels sont les outils que les étudiants ont pour justement utiliser de manière critique ? Parce qu'il faut quand même un certain savoir-faire pour reconnaître les erreurs.
Oui, alors je dirais très clairement leur cerveau. Je pense que c'est ça en fait qui fait la différence encore entre ChatGPT, les intelligences artificielles et l'être humain, c'est le cerveau. Donc c'est pouvoir se dire, mais là, est-ce que cette information elle est fiable ? Comme vous en tant que journaliste, lorsque vous recevez une information par un canal X ou Y, bah, vous n'allez pas directement déverser cette information auprès de votre public, vous allez d'abord la vérifier. Or là, il y a un vrai travail de vérification qui doit être fait. Donc je pense que là, aussi à l'université, on va devoir aussi changer notre fusil d'épaule par rapport aux méthodes d'évaluation. Puisqu'il est clair que, comme les étudiants et étudiantes utilisent les intelligences artificielles, et que c'est très difficilement détectable. On peut pas nécessairement prouver. On a de gros doutes souvent sur l'utilisation, mais on ne peut pas le prouver de manière suffisamment forte juridiquement parlant, je dirais. Et bien dans ce cas-là, il faut justement que, en tant qu'enseignant, enseignante, on puisse adapter nos méthodes d'évaluation pour faire en sorte que on puisse aller vérifier dans quelle mesure le travail qui a été fourni par l'étudiante et l'étudiant est un travail qui va alors demander une analyse plus réflexive. On va plus demander mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat ? Quel est en termes d'apprentissage ? Quels sont les enseignements que vous tirez par rapport au travail que vous avez fourni ? Et là, clairement, on voit assez rapidement si un étudiant ou une étudiante ne s'est servi que d'une intelligence artificielle pour pouvoir mettre sur pied son travail, ou s'il a ou elle a réellement travailler de manière réflexive sur ce programme.
Donc en gros, vous n'allez pas forcément abolir les travaux écrits, les exposés et tout ça, mais ils auront une autre... dans une autre direction.
Je pense que par rapport aux travaux écrits, il est clair que les travaux écrits à domicile, les étudiants et étudiantes seront probablement plus enclins à vouloir utiliser des intelligences artificielles. Donc les examens écrits peuvent se faire sur site, sans
outils informatiques.
voilà, une rédaction, ce genre de choses. Mais je pense qu'ici, moi en tout cas en tant que professeur de langue, ce qui moi m'attire par exemple dans la relation que je peux avoir avec les étudiants et les étudiants, c'est plutôt de travailler sur l'oral. Réinstaurer des examens oraux, ce qui évidemment, lorsqu'on a de grosses cohortes étudiantes, est un véritable défi. Donc là, je pense qu'il faudra aussi qu'on réfléchisse à cela. Et d'ailleurs, bon, il y a des formations qui sont prévues pour les étudiants. Je projette aussi avec mes équipes de pouvoir mettre en place, il y en a déjà, mais de mettre en place de manière un peu plus systématique des formations aussi pour les enseignants, pour pouvoir, pour leur permettre justement de bien appréhender les difficultés qui peuvent être rencontrées avec l'utilisation de l'IA, et aussi un peu dédramatiser et démystifier cette utilisation. Donc ça, ce seront par exemple des activités que je projette de mettre en avant dans le cadre d'un nouvel institut qui vient d'être créé à l'Université du Luxembourg, qui est l'Institute for Innovative Teaching and Learning.
Est-ce que l'Université de Luxembourg prévoit aussi d'interdire certaines pratiques liées à l'intelligence artificielle ?
Alors, je dirais, ça dépend de quelle pratique on parle. Je pense qu'il y a certaines pratiques que l'on peut essayer d'interdire. Mais vous savez, les interdits, c'est comme pour tout. L'être humain est ainsi fait que les interdits, ils sont faits pour être bravés. Donc, je pense qu'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un vœu pieux. Je pense qu'il faut maintenant intégrer le fait que ces intelligences artificielles, elles sont là, elles sont dans le grand public. Il faut former les gens. Et pas que les étudiantes et les étudiants d'université. Je pense qu'il y a besoin de formation pour le grand public également, et que à différents niveaux bien évidemment, et que ce genre de formation va pouvoir aider justement les personnes à mieux utiliser ces intelligences artificielles, et aussi les utiliser de manière responsable, tout en sachant par exemple que, alors c'est quelque chose dont on ne parle pas nécessairement, mais c'est que ces intelligences artificielles ont aussi, l'utilisation en tout cas, a un impact important au niveau environnemental.
Environnemental.
Oui.
Dans quelle
manière ? Dans le sens où l'utilisation d'un prompt, par exemple, sur une intelligence artificielle, ça demande des ressources informatiques telles que ça a un impact sur... ça consomme, je ne connais pas le chiffre exact, mais ça consomme
beaucoup
d'énergie, et que l'utilisation de cette énergie, c'est quelque chose dont on doit aussi être conscient, parce que notre monde, les énergies fossiles ne sont pas extensibles.
Et ça coûte aussi de l'argent.
Exactement.
Denn Professor Philipp Helixmann als Vizerektor von der Uni beschäftigt sich do mit der Leia an auch mit KI do Venster. Ein grand merci, Monsieur Helixmann.
Vielen Dank, merci.